Salut.
Salut.
C'est Champ Libre. Salut à tous et à toutes. Champ Libre numéro 592. Un champ libre du mois de janvier, un champ libre du mois de janvier de l'année 2016. Je vous avais dit au début de cette année que j'osais à peine vous souhaiter une bonne année, tellement je regrettais d'avoir dit ça en 2015. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui, oui.
Et ben, la série continue. Hein. Si on veut faire des champs libres nécro...
Bah, plus que jamais.
Plus que jamais, mmh. Monsieur... Le compositeur des textes, du texte de Hotel California, et guitariste des Eagles, qui a trouvé le moyen de passer de l'autre côté lui aussi. Bon, David Bowie, on en a parlé la semaine dernière. Moi, je voulais vous parler de Pierre Boulez. J'ai passé la totalité de l'émission la semaine dernière à vous parler de David Bowie. On parlera de Boulez une autre fois. Alors, il y en a qui vont me dire, quoi, Boulez dans Champ Libre, ça va pas la tête. Ben si, on peut être fan de Motorhead, par exemple, et parler de Lemmy, et écouter Pierre Boulez, mmh. Et Stravinsky, c'est pas interdit.
Pourquoi pas, oui.
Alors ce soir, on va parler de musique, on va parler de David Bowie, comme promis la semaine dernière. Et pourquoi on parle de nouveau de David Bowie? Et ben, tout simplement parce que les invités du mois sont là. Joe, pour... parler plus particulièrement de cinéma et d'images qui bougent, mais pas
de,
que.
De pas que. Bon, je parlerai pas de nécro, parce qu'Ettore Scola est mort aujourd'hui, enfin hier.
Voilà, hein, donc...
Mais non, je ne parlerai pas que, mais cinéma, avant tout.
Et Damien, qui habituellement nous parle de métal, mais qui tenait absolument, depuis déjà quelques semaines, à faire la chronique du nouvel album de David Bowie, qu'on
ne malheureusement
savait
dernier.
Pas être le dernier. Voilà. Quant à Laurent, lui, il n'a pas le choix, il est enchaîné derrière la table de mixage et il s'occupe de la technique. On va démarrer ce champ libre, pas avec un titre de David Bowie, ça va venir, mais avec un album qui sortira le 12 février. Donc c'est pas la peine de se précipiter chez vos disquaires préférés, ni sur Internet. C'est le nouvel album des Anglais de Kula Shaker. Alors Kula Shaker avait sorti il y a déjà de nombreuses années un album qui s'appelait K, la lettre K, qui était un petit bijou de rock psychédélique. C'était dans les années 90, c'était plutôt étonnant. Et puis Kula Shaker s'était un peu perdu. Alors perdu pour la musique, mais également perdu dans des déclarations ésotériques fumeuse qui lui avait valu une perte de succès également. Et puis là, il revient, donc je suis un peu méfiant. J'écoute le nouvel album qui s'appelle K2.0. Tiens, un petit clin d'œil à quelque chose de plus logiciel. Alors je me dis, ça craint, ils vont avoir ajouté de l'électro dans leur musique. Eh ben non, ça commence avec un morceau indianisant que George Harrison n'aurait pas détesté ni rejeté. Et ça continue avec du rock pop à mi-chemin entre Black Rebel Motorcycle Club, que j'adore, et des groupes un petit peu bluesy comme on peut en entendre depuis quelques années. En tout cas, après deux ou trois écoutes de ce futur nouvel album de Kula Shaker, je me demande si ça ne va pas être mon album préféré de ce début d'année. Et la preuve, un premier titre qui s'appelle Death of Democracy. Alors, on traduit, la mort de la démocratie, ça tombe bien, ça m'évitera de vous parler de Monsieur Valls et puis des lois et puis des...
About the fortune of the Greeks. The Trojan horse won the war and snatched the golden fleece. There were women screaming, soldiers breaking down the door. Even Icarus was flapping to escape the Minotaur. It happened suddenly, Athens fell into the sea. The dream had ceased to be, the death of democracy. Slave away your life and never pay it back. 'Cause money is the law, so get your hands behind your back. You don't need to know what we have put upon your plate. And you don't need no oracle to recognize your fate. It happened suddenly, Athens fell into the sea. The death of democracy. Fort with sandals on their feet. Now they're selling sneakers on the corner of the street. It's a joke that isn't funny. It's a room without a door, and it's only printed money. So just go print some more. The truth is plain to see, and we all knew it. Athens fell into the sea. I guess we knew it. The dream had ceased to be the death of democracy.
Kula Shaker, Death of Democracy, le titre du morceau. L'album s'appelle K2.0 et il sort début février. Damien, je disais tout à l'heure que tu avais insisté, tu t'étais battu en fin d'année 2015 en disant le premier disque que je veux chroniquer dans Champ Libre sera l'album de David Bowie. Et pourtant, c'est pas du métal.
Et non, mais bon. Chers auditeurs, bonne nouvelle, David Bowie nous a laissé un magnifique disque. On va pas parler de métal. Mais avant toute chose, avant d'en parler, on va d'abord écouter Lazarus, qui nous mettra dans l'ambiance de l'album, qui est assez représentatif. Et un petit conseil avant de l'écouter, faites attention aux paroles. Scars
that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. We'll be right back.
Lazarus, donc. Black Star, quant à lui, démarre sur le morceau éponyme, divisé en deux parties. D'abord, un rythme quasi électronique, un sax free jazz, une voix fantomatique, une ambiance étouffante, en fait. Puis, une rupture au bout de 5 minutes. Et donc, on peut entendre des envolées pop qui nous emmènent dans un autre monde, une pop ouais, céleste, en fait. La tension augmente d'un cran avec Chesapeake Was a Hole au tempo plus rapide, sur lequel se colle la voix chaude de Bowie, accompagnée encore une fois d'un sax très présent. Bon, l'écouter à l'instant, Lazarus est un morceau incroyable, magnifiquement orchestré, aux paroles prophétiques. Donc en bref, c'est la pierre angulaire de l'album pour moi.
Mm-hmm. Avec un clip.
Un clip assez dérangeant et qui a des choses à dire. Je pense qu'on en parlera peut-être après. Sue or a Season for a Crime est musicalement un morceau violent, énervé. À l'inverse, la voix est d'abord plaintive, puisque Sue in a Season for a Crime, au niveau des paroles, c'est un peu une histoire d'abandon du narrateur par l'addit Sue. Donc elle est d'abord plaintive, puis pop, et sur la fin, ça devient carrément lyrique. Très rythmé, Girl Loves Me est un morceau qui est en fait assez étrange. D'abord dans ses paroles, parce qu'en fait c'est un langage inventé. Alors on peut penser par exemple à Orange Mécanique, hein, au Nasdaq.
Mm-hmm.
Et puis musicalement aussi, bah, ouais, comme je disais, c'est très rythmé, ça peut presque faire penser finalement à une sorte de rap pop, et avec des influences orientales qui rappellent plus ou moins Lodger sur certaines chansons. Puis on passe à Dollar Days, qui est profondément mélancolique, presque à en pleurer. Le solo de sax laisse sans voix, et donc je profite de cette chanson pour saluer l'excellente prestation sur tous les titres de Donny McCaslin, deuxième héros de l'album. Et enfin, on pourrait parler de Mantra, en ce qui concerne I Can Give Everything Away, cette phrase est répétée jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans notre tête. Et finalement, ce sera peut-être le dernier mot de David Bowie, de sa carrière artistique. Et musicalement, elle me rappelle un peu Heat, qui concluait déjà le précédent album, The Next Day. Donc, à propos de l'album dans son ensemble, on peut dire que Bowie n'avait jamais atteint de tels sommets depuis sa trilogie berlinoise, et on a rarement vu plus beau testament.
Merci Damien pour cette chronique. On va parler un petit peu plus. Tu parlais d'un langage inventé dans Girls Love Me.
Ouais.
Et tu parlais de Lodger également. À cette époque-là, je ne sais plus dans quel album, un des trois là autour de la trilogie.
C'était sur Low avec Warsawa.
Voilà, il y a déjà.
Oui, il inventait tout un langage, effectivement, mais qui était quand même beaucoup moins présent, à mon avis, que sur Girls Love Me.
Mais dans cet album, il y a beaucoup de choses qui ont été. Alors, je veux pas dire emprunter, mais je pense qu'il a essayé de rassembler un maximum de choses autour de l'album. L'étoile d'abord, l'espèce de logo qui est sur la pochette. Bon, c'est vrai que c'est pas facile à montrer comme ça à la radio. C'est un pictogramme qu'on voit dans le film L'homme qui venait d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Qui est un pictogramme d'ailleurs assez minimaliste, mais qui est très frappant déjà. Au premier abord, en fait, quand on voit l'album, on est frappé par ça. Et ça rappelle exactement le pictogramme qu'il y a dans le film de Nicolas Roeg. Ça, c'est clair.
Voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec Damien. Je ne sais pas ce que Joe va nous dire. Mais je pense que c'est très certainement le meilleur album de David Bowie depuis bien longtemps. C'est un album qui m'a étonné parce que David Bowie ne s'était jamais lancé dans le jazz le plus... J'ai pas envie de dire free non plus parce que free ça renvoie à un style de jazz, mais on va dire libre parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans cet album. Donc David Bowie ne nous avait pas habitués à ça. Et le fait qu'il ait rencontré, tu as cité.
Oui, Donny McCaslin.
Donny McCaslin n'y est pas pour rien. Je crois que David Bowie était en train d'écrire, de composer Sue la chanson Sioux,
oui, qui d'ailleurs en fait
qui
était
date de l'album précédent,
était partie, mm-hmm. était effectivement paru sur le Best of Nothing Has Changed,
voilà.
mais qui était dans tout une version fait. Différente et justement beaucoup plus jazz
ouais.
que celle qu'on peut entendre sur cet album.
Donc, ce qui est,
idem pour Chesapeake Was a Hole.
Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson en question, il l'a écrite avec Maria Schneider, qui est une élève de Jill Evans, Jill Evans qui était l'arrangeur de Miles Davis. Donc David Bowie a dû tomber dans le jazz là, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et le saxophoniste joue avec elle. C'est comme ça qu'il l'aurait rencontrée, alors qu'ils étaient en train d'enregistrer le morceau Sioux, et puis également travailler sur la chanson qui apparaîtrait dans la fameuse pièce de théâtre joué à Broadway, ces derniers temps, qui a fait un tabac entre parenthèses,
qui a fait un tabac.
Lazarus.
Mais c'est ce qui marque dans l'album, je trouve, c'est outre le fait que ce soit un album testament, c'est le dernier album de Bowie, c'est vraiment moi l'influence jazzy la présence vraiment d'un style éthéré en fait de l'album qui impressionne vraiment, qui fait qu'on passe du pop, comme disait Damien, qu'on passe du pop au jazz et d'une manière assez hallucinante et qui ont fait un album magnifique.
Ah oui, moi, en fait, ce qui me frappe dans cet album, c'est que on a l'impression que c'est pas seulement David Bowie, ça pourrait presque être l'album de David Bowie et Donny McCaslin. Et ouais, que ouais, finalement les ouais. autres musiciens sont presque en retrait par rapport au saxophone.
David Bowie qui jouait du sax.
Oui,
dans ses
tout premiers enregistrements, quand il était encore, quand il jouait encore avec des groupes.
Ouais. Il était, oui, à l'époque où il était encore David Jones. On en parlait il y a quelques minutes avant l'émission. À votre avis, est-ce que cet album aurait été un succès commercial si David Bowie n'était pas passé de l'autre côté ?
Oh, à part ses fans, oui, je pense. Mais
quelques fans.
Ça
aurait été un album mythique dans la carrière de David Bowie, mais seulement considéré mythique comme la
trilogie.
Voilà, exactement comme le reste, trilogie bernoise qui a été totalement oubliée par les médias mainstream.
Après, on sait que les décès augmentent les ventes systématiquement.
C'est un album qui n'est pas franchement commercial, mais qui va se vendre beaucoup.
Oui.
Tu es d'accord aussi,
ah,
Joe,
oui, je suis complètement d'accord. Ouais.
Excellent.
C'est un raz-de-marée, je dirais, de vente, effectivement.
Mais je pense pareil. Mais
ça fout d'autant plus les boules que c'est le dernier. Quoi.
Ouais, ouais.
Mais ce que je trouve étrange, c'est finalement que c'est un album que tout le monde ne peut pas appréhender sans avoir auparavant écouté plusieurs albums de Bowie. Je pense pas que ce soit la meilleure porte.
C'est pas Let's Dance.
C'est pas la meilleure porte pour entrer dans l'univers de Bowie. Et c'est ça que je trouve étonnant. C'est vraiment la mort qui a fait que cet album se vend bien.
Je disais à l'instant, dommage que ce soit le dernier. Alors, le Donny McCaslin, saxophoniste avec qui il a travaillé, raconte dans Rolling Stone de ce mois-ci, article qui a été écrit avant le décès de David Bowie, il raconte que l'enregistrement de l'album s'est passé entre janvier et mars 2015 et qu'ils ont enregistré en live, c'est-à-dire de l'impro, et que David Bowie a rajouté parfois jusqu'à une centaine de pistes de voix sur certains titres. Et il raconte, et ça intéresse peut-être les fans que nous sommes, il raconte également qu'ils ont enregistré 14 titres. Là, on en a 5 à suivre, peut-être.
Peut-être.
Tu as choisi un second titre.
Oui,
d'ailleurs.
Donc celui dont je parlais, que je qualifiais de mantra, en fait. C'était « I can give everything away ».
L'album s'appelle
« Black Star ».
Oui.
Oui.
Ouais, faut le redire.
Oui, effectivement. Faut le redire. Album Black Star. La dernière chanson, c'est I Can Give Everything Away. Littéralement, je ne peux pas tout donner. Ça tombe bien, Monsieur Bowie, ouais. Vous en demandez pas autant. We'll be right back.
good news with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything. We'll be right back.
in his eyes. Striped with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say. Jump. They say, jump.
David Bowie, Jump, essai extrait de
l'album
Black Tie,
Black Tie White, White Noise, qui était un album inégal en 93, mais qui valait le détour par ce, par ce titre pour moi.
Un choix que tu avais fait malgré tout.
Oui.
Joe, tu vas nous parler un peu de David Bowie au cinéma.
Au cinéma, parce qu'il n'y a pas que la musique avec David Bowie, en fait. Donc, il a quand même une filmographie très riche. Alors, je ne m'attarderai pas sur des films mythiques qu'on nous resserre souvent quand on parle de Bowie au cinéma, comme L'homme qui venait d'ailleurs, Labyrinthe, Furio, ou Les Prédateurs de Tony Scott avec Catherine Deneuve. Moi, j'ai choisi quatre titres bien spécifiques qui pour moi lui offre des rôles aussi disparates que très très maîtrisés. Le premier, alors dans le désordre, hein, le premier c'est quand même son apparition courte, impressionnante pour moi en Ponce Pilate dans La Dernière Tentation du Christ de Scorsese, et son face-à-face magistral avec un Willem Dafoe inspiré. Donc c'est une apparition très courte, hein, 2 minutes, mais empreinte d'une sorte de dualité entre sérénité et une tension indescriptible. Donc c'est vraiment une séquence très courte, mais jetez-vous sur ce film, magnifique. La deuxième intervention, la deuxième performance, même je dirais, c'est son intervention flippante dans l'une des plus grandes scènes du film Twin Peaks Firewalk With Me de David Lynch, où son apparition ici de la fameuse loge noire sème le trouble chez tous les protagonistes, en particulier l'agent spécial Dale Cooper. Et c'est une séquence complètement ahurissante, et dont on revient, on repense à cette scène longtemps après le film, et c'est vraiment un excellent film, une excellente séquence. Mais mes deux favoris arrivent, c'est d'abord sa sublime composition d'Andy Warhol dans le moins génial Basquiat de Julian Schnabel, donc qui a juste non pas démontré, mais juste confirmé que Bowie ne fut pas un excellent acteur, en plus d'être un musicien de génie, c'était juste un artiste total, en fait. Donc Basquiat, où il joue le rôle magistral d'Andy Warhol. Et puis pour finir, je vais quand même parler de son entrée en scène électrique, grandiose, digne du monsieur qu'il était dans le génial film de Christopher Nolan, Le Prestige, où personne d'autre que lui n'aurait pu incarner cette figure mystérieuse, inquiétante, mythique, en la personne de Nikola Tesla, l'inventeur entre autres du courant alternatif. Donc d'ailleurs j'ai une petite citation de Christopher Nolan rapide, qui disait: il semblait pour moi la meilleure personne capable de jouer ce rôle. L'avoir eu sur le tournage a été une expérience merveilleuse, intimidante en premier lieu, mais il avait un niveau de charisme au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, et tout le monde y réagissait. Je n'ai jamais vu une équipe de films répondre de cette manière à la star d'un film, quelle qu'elle soit. Et pourtant, il est resté courtois, comprenait l'effet qu'il avait sur les gens. Donc, ce film-là, qui, pareil, il a 2-3 scènes, hein, pas énorme, mais est un film magnifique, et la présence de Bowie, qui plus est l'une de ses dernières au cinéma, est incroyable, incroyable. Donc moi j'ai trouvé que dans la musique, comme dans le cinéma, la légende Bowie s'est accommodée des changements d'identité, de visage, de composition, d'apparence, afin de mieux se fondre dans des personnages à sa mesure mythiques, historiques et tout simplement immortels. Et aujourd'hui, s'il y a une descendante, même je dirais, de Bowie au cinéma, c'est son alter ego, Tilda Swinton. Et si vous voyez Only Lovers Left Alive, vous aurez juste l'impression de revoir des bribes du Prédateur.
Film que tu avais chroniqué.
Absolument, c'était mon coup de cœur il y a 2 ans. Oui, tout à fait, absolument.
David Bowie, t'es 4 apparitions préférées de David Bowie.
Oui, là, pour moi.
Je n'ai pas compté, mais il y a au moins une trentaine de films lesquels il apparaît.
Ah bah oui, les Zoolander de Ben Stiller.
J'ai le souvenir de Labyrinthe.
Avec sa choucroute qu'il arbore, voilà, qui est
fantastique pour enfants.
Pour enfants, oui, complètement.
J'ai un petit penchant également pour Absolute Beginner, cette espèce de comédie musicale,
musicale, oui, complètement.
Avec Ray Davis, des Kings, ça ne peut qu'être bon, une histoire de blues en noir,
West Side Story. De blues en noir, mais c'est ça, c'est qu'il a touché vraiment à tout type de rôle, et comme en musique, il a su s'adapter à divers styles, en fait.
Et puis, il y a un truc qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, le grand public a découvert David Bowie à travers Led Dance, mais également à travers moi, Christian F.
Ah, exactement.
Effectivement, j'allais en parler.
Exactement, oui.
Et oui, il a d'ailleurs la BO est composée de titres de toute sa période qui va de Station to Station à Lodger, avec une version live de Station to Station qui est vraiment impressionnante.
Exactement, oui.
Voilà, et puis on a évoqué tout à l'heure l'homme qui venait d'ailleurs,
de Nicolas
la pièce Lazarus serait la... Et inspiré de l'homme qui venait d'ailleurs, ça serait la suite.
De suite, en fait, oui.
L'homme n'est pas retourné,
il serait resté
sur sa planète, il serait resté, et il se souvient de sa famille.
Exactement.
David Bowie, qui, comme chacun sait, est retourné quelque part sur Mars.
Oui.
Hein, puisque je ne sais plus qui lui a demandé comment c'est sur Mars. Hein. Il y a eu beaucoup d'hommages. ces derniers temps dans la presse. D'ailleurs, y compris de personnes qui, à mon avis, ont découvert David Bowie il y a peu. Il a joué également dans... il a participé, c'est un peu plus étonnant, ces derniers temps, sur Bob l'Éponge.
Oui, bon, il a fait là une voix, en fait. Hein. Mais il avait aussi fait la voix de je crois que c'était Maltazar dans Arthur et les Minimoys.
Oui, effectivement.
Et il a prêté sa voix à quelques films, effectivement. Ce qui veut dire voix ultra reconnaissable, d'ailleurs.
On ne prend pas toujours...
D'ailleurs, chose marrante...
Oui, non.
Chose marrante, le fils de Maltazar dans Arthur et les Minimoys était doublé par Iggy Pop.
D'accord. Ah oui, oui, ça, tu vois, je ne me rappelle pas.
Puisqu'on parle de cinéma, le fiston d'un Cannes...
Oui, qui est un très bon réalisateur, qui a fait le film culte, bon, qui est sorti directement en DVD au cinéma, qui était Moon.
Voilà, donc, pour la filmographie de David Bowie. David Bowie, qui, chose étonnante, n'a pas laissé beaucoup de traces en matière de clips et de vidéos. Alors, il y a de très beaux clips et de très belles vidéos, pense à... Ashes to Ashes.
Ouais, Ashes to Ashes, je pense à Earth for Cilesson, voilà, de l'album Outside, qui était excellentissime
c'était
aussi.
C'était pas quelque chose qui l'intéressait beaucoup. On va écouter un dernier titre de David Bowie.
I'm Afraid of Americans, de l'excellent album Earthling, qu'il a fait en 97 pour ses 50 ans.
La fameuse pochette.
Qui est pour moi la renaissance, le renouveau rock en fait de Bowie. Et pour info, si vous avez l'occasion de voir sur YouTube, parce qu'il n'existe pas en DVD, le concert au Madison Square Garden de ce concert anniversaire, c'est un must absolu en très haute définition. N'hésitez pas, jetez-vous dessus. Donc au Madison Square Garden.
I'm Afraid of American, qu'il avait repris également avec la bande à Sonic Youth il y a quelques années.
D'accord.
Titre intéressant. We'll be right back.
Libre, le favori.
L'album favori de l'animateur de Champ Libre depuis déjà quelques semaines, c'est l'album Real to Real de monsieur Arthur Lee et du groupe Love, album de 74, mais qui est réellement arrivé sur nos platines seulement en 2015. On écoute un titre hendrixien, Busted Feet. Busted Feet, brutal, hein, la fin de ce titre extrait de l'album du groupe Love, favori de Champ Libre. Ce Champ Libre numéro 592 est presque terminé. Je voudrais vous communiquer deux ou trois infos quand même. Il y a quelques semaines, nous avons lancé, entre autres, la campagne de communication autour du crowdfunding, financement participatif visant à donner un petit coup de main aux libraires de ma petite librairie à Bourgoin-Jallieu. Cette campagne de financement participatif se termine mercredi prochain, je crois qu'il reste 8 jours. Et j'en ai parlé dans chaque champ libre et je voulais dire que les 100% attendus ont été atteints et voire même dépassés, ce qui veut dire que objectif numéro 1, sauver un emploi, ça le fait. Par contre, objectif numéro 2, sauver les 2 emplois, qui serait chouette, on va dire que c'est en bonne voie. Il doit manquer 7 000 euros. Mais ça grimpe vite depuis quelques jours. Voilà, donc on arrosera ça avec elle très bientôt. Ça, c'était la première info. Deuxième info musicale, celle-ci, mais pour ceux qui savent lire. Le dernier Hockey Folk vient de sortir avec le logo Motorhead et Adieu Lemmy en couverture. Donc je pense qu'il y en a au moins un qui s'est vendu dans la région. Et pour les autres qui seraient intéressés, allez-y, on parle de Lemmy. Le numéro de Rock & Folk est sorti un poil trop tôt pour parler de David Bowie. Il y aura un numéro spécial David Bowie d'ici 8 jours, toujours pour Rock & Folk. Il y a un numéro spécial également des Arocs consacré à David Bowie. Et il est en kiosque actuellement. Autre numéro de Rock & Folk en kiosque actuellement, un numéro spécial. Donc celui-ci devrait être en vente pendant 3 mois environ. Un numéro spécial consacré à la musique psychédélique. Il y a un retour de la musique psyché depuis quelques temps. Et je trouve que c'est bien vu de la part de Rock & Folk d'avoir fait un numéro. Alors il parle de toute la musique qu'on écoute dans Champ Libre depuis des années, y compris les choses qui s'enregistraient dans les années 60, mais pourquoi pas dans les années 70, 80, 90, 2000 et 2010, parce que ça existe encore aujourd'hui. Ils en profitent pour parler du jazz, des pochettes et tout, Miles Davis et j'en passe, de la musique psyché allemande, machin qui s'appelle le krautrock. Donc ça fait bien plaisir à l'animateur de Champ Libre. Et puis on parle également d'un de mes metteurs en scène, réalisateurs, auteur de bande dessinée préférée, un monsieur qui s'appelle Alejandro Jodorowsky. Et on en reparlera très bientôt. Du coup, ça me travaille. Je crois bien que vous allez avoir droit d'ici quelques jours un Champ Libre spécial psyché.
Et surtout, il y a le documentaire sur Dune de Jodorowsky qui sort bientôt.
En plus.
Ça a l'air assez incroyable.
Donc préparez-vous, on va aller faire un petit tour du côté de la musique psychédélique. Mais pas que la musique, il y a la littérature aussi. On parle beaucoup de Pynchon dans le rock et folk en question. Voilà. Merci Damien pour ta chronique sur le dernier album de David Bowie, qui est une petite merveille.
Effectivement.
La chronique est le disque.
Merci. Donc précipitez-vous sur Black Star.
Voilà. À ne pas confondre avec l'étoile noire, Laurent. Merci, Joe.
Merci.
Pour partie cinématographique, on se retrouve le mois prochain, en espérant que ce ne sera pas nécro cette fois-ci. Merci, Laurent, pour la technique. Et le dernier titre de l'émission de ce soir, c'est un autre extrait du futur album de Kula Shaker, qui sortira donc mi-février. L'album s'appellera K2.0. Le groupe Kula Shaker devrait donner une série de concerts, en tout cas au moins déjà en région parisienne. Et le titre qu'on va écouter pour se séparer, c'est Here Come My Demons. Voilà. On reste dans l'ambiance.
Ah oui. Finalement. Allez.
Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Here come my demons. Out of the shadows, all cloaks and daggers, and poison arrows, hell-bent with weapons of self-destruction, whispering kisses, serpentine seduction. So tragic.